Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. You got that thing that I've been
looking for. Been running around for so long. Now I got you, I won't let you go. Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, Les mecs que je veux ken. Comment allez-vous? Le froid, ça a été, il a fait froid, hein? Est-ce qu'en ce moment vous vous entourez de personnalités positives qui vous renvoient une belle image de vous-même et vous font sentir fort? Bah j'espère, mais c'est pas facile, en amitié notamment, et on perd vite confiance. En fait, on peut vite se soumettre à un caractère dur, à une personne qui, elle, doute pas. Et je trouve que c'est fatigant de devoir lutter contre ceux qui se remettent jamais en question et sont sûrs d'avoir raison. Voilà, bon, enfin bref. L'important, hein, c'est de rencontrer des personnes rigolotes, vraiment, je trouve, avec lesquelles on n'a pas envie de se buter d'ennui, quoi. Bon, et bah merci d'écouter mon podcast, et j'espère que ce nouvel épisode avec Sébastien Marx vous plaira. Bonne écoute.
Ouais.
Non, je suis un peu caractériel. Résultat, ça m'énervait de commencer en retard à cause des gens avant.
Mais on était censé commencer à 14h30.
Je sais.
Moi, je suis arrivé plus tôt.
Je sais, mais comme on leur a laissé 10 minutes supplémentaires alors que c'était déjà sur notre créneau sur lequel on aurait dû installer, j'aurais aimé que, comme on leur donne 2 minutes, ils me remercient.
Ouais. Mais ils n'étaient pas comme ça.
Et ils n'étaient pas comme ça.
Ils étaient au contraire, ah, elle est chiante.
Ils étaient là, elle est chiante, alors ouais. Que je vous ai donné 10 minutes.
Ouais.
Et surtout, j'ai trouvé que quand ils remballaient leur matos, ils le remballaient lentement, certains, pour certains. Ouais. Et j'ai envie de dire, les gars,
ouais.
En fait, si c'est ça l'image des Français, bah ouais, bossez jusqu'à 67 ans, les mecs.
J'espère que t'as dit ça.
Ouais, ça va manifester, hein, ça va bloquer la France, hein, ça sait pas déplacer sa guitare rapidement, hein, ça se met du maquillage sur le visage, bande de branleurs. Non. Ça enregistre déjà ? Ouais.
Tant mieux, j'espère que tu vas garder.
Toutes les remarques de droite pour les coupes au montage. Ok. Bon, alors, j'ai écrit un petit poème.
Ouh, mais... j'ai le trac.
Alors, Sébastien Marx. Il y a les mecs que je veux ken et les mecs avec qui je me serais bien vu marier. Sébastien Marx, un papa américain à Paris qui joue en français, en anglais, qui a créé le premier plateau en anglais à Paris, la New York Comedy Night. Waouh. C'est avec moi qu'il aurait dû faire des bébés. Un mari new-yorkais, mon rêve. Élever les enfants dans les deux langues, mon rêve. J'ai eu des amoureux avec qui je parlais en anglais. Jake. Hi Jake, do you sometimes think of me? Of what we could have been? I don't think so. But it's so romantic to speak with the other in another language. It's so auto-erotic to be the French woman. Sébastien Marx, you married a French woman, why her and not me?
Très bien, tu viens de perdre énormément d'auditeurs avec ton anglais là. Ils vont me dire, ah, je comprends pas, c'est un podcast en anglais, je vais plus l'écouter.
C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, alors, je disais, it's so auto-erotic d'être la femme...
La française.
Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est comme si t'étais une double femme, quoi. Je trouve, enfin, en tout cas, avec un Américain, parce qu'il y a... Toi, comment tu as rencontré ta femme, d'ailleurs?
On s'est rencontrés à un mariage.
Ah oui, c'est vrai.
On était à le... Moi, j'étais le best man.
OK.
Un des best men.
OK.
Et elle était une de bridesmaids. Donc,
c'est
un comedy romantique de merde. Et en fait, parce que moi, j'étais dans le milieu du spectacle, elle aussi.
Ah, d'accord.
Les mariés nous ont demandé d'animer, en gros, gratuitement, le mariage. Et donc, on s'est vu pour préparer le mariage.
Ah ouais, c'est un film.
C'est un film. C'est
elle est comédienne aussi?
Oui. Ouais.
D'accord.
Elle est comédienne, elle donne le coup de théâtre aussi.
Donc, d'accord. Ouais. Et donc, quand toi, tu l'as vu, ça faisait combien de temps que tu habitais à Paris?
En fait, à Paris, un an en gros. J'étais en France déjà depuis 5 ans. Parce que quand je suis arrivé en France, je suis allé à Toulouse.
Ah.
Qui veut dire perdre en anglais.
Toulouse,
ouais. Ouais. Et donc, j'ai quitté New York pour aller à un endroit qui s'appelle perdre.
Très psychanalytique.
Ouais, et donc, j'ai bien perdu à Toulouse.
Tu m'avais pas dit que tu avais... Une fois, on a pris un verre,
ouais.
On a parlé sentiments.
Ouais.
Et tu m'avais pas dit que tu avais déjà une première petite amie?
Oui, on peut dire femme aussi.
Ouais. Une femme.
Ouais. Ouais, une Toulousaine,
effectivement. Ah, t'étais mariée déjà.
Ouais.
Mais c'est ça l'histoire, c'est vrai. Donc tu es un homme divorcé.
Ah, je suis un homme divorcé.
Incroyable.
Ouais.
Et tu as quel âge?
Ah, j'ai 40 ans.
Ah, tu les fais pas, c'est
merci
incroyable.
Beaucoup.
Je pensais que tu avais 34 ans.
Oui, non, ça c'est le fait que je fais...
Tu te teins les cheveux?
Oui, c'est ça. En fait, c'est pas mes vrais cheveux,
ah,
en fait,
ouais.
c'est un perruque. Toupé, c'est ça? Toupé.
Vous dites toupé? Un toupé.
Toupé?
Ouais.
C'était O-U ou T-U?
Un toupé? Du toupé?
C'est
T-U-P-E-T.
T-U-P-E-T. Donc, d'accord. Toupé.
Il y a d'autres termes. Et avoir du toupé, c'est avoir aussi être un petit peu gonflé, quoi.
D'accord.
Un sacré toupé.
Ah oui?
Je sais pas s'il y a un lien, si ça doit être ça. Dis donc, les gens qui ont des toupées ont un sacré toupé. Ouais.
Voilà, c'est notre niveau d'humour.
Ouais. C'est clair. Et donc, elle était française, ta première femme, ou américaine?
Française. Non, je suis venu en France parce qu'elle est toulouse. Elle est toujours vivante. Toulousaine.
Et elle n'était pas comédienne, elle?
Non.
Mais tu vois, ça, c'est mon rêve, que je rencontre un mec marié qui me rencontre moi comédienne et qui quitte sa femme pour être avec moi. Et toi, tu l'as fait?
Non, j'étais déjà divorcé avec la première avant
bien,
de rencontrer.
C'est parfait, c'est idéal.
C'est mieux ouais. Comme ça quand même.
Oui, c'est beaucoup mieux comme ça.
Comme ça, on commence avec un clean slate.
Ouais, c'est clair.
Ouais.
Mais par contre, c'est très rare, donc tu as divorcé de ta première femme
oui.
Et il n'y avait pas d'autre option sur le moment.
D'autres options de femmes.
Ouais.
Oui, il y avait
c'est
mille.
C'est très courageux.
Oui.
C'est vrai que c'est encore plus courageux de quitter quelqu'un quand t'as pas encore rencontré une autre personne.
Oui, peut-être. J'ai pas vu ça comme ça. J'ai vu juste c'était courageux de
te barrer.
C'était une relation qui était pas très saine, on va dire. Et donc ça faisait longtemps que c'était clair qu'il fallait qu'on se sépare.
Okay.
Mais tu sais comme c'est, à la fin d'une relation, tu restes ensemble dans cette espèce de purgatoire. Donc tu sais que ça va bientôt finir, mais tu as du mal à vraiment mettre fin. Et donc ça a traîné. Et donc finalement, j'ai eu le courage de voir qu'on a eu le courage. Bon, moi, j'ai eu le courage de
c'est
mon
toi
côté.
Qui l'as
quitté. Finalement, moi, j'ai dit stop. Quoi.
Ouais. Elle faisait stop. Quoi comme métier?
Elle était dans plusieurs choses, plutôt aussi dans l'artistique.
Artistique aussi, une artiste.
Ouais.
Donc, d'accord.
Je suis attirée.
Une Toulousaine, t'es attirée par les artistes.
Oui, apparemment.
C'est bien.
Je ne sais pas si c'est bien. Mais, et donc, c'était courageux aussi parce que finalement, c'était bizarre parce que moi, je suis venu en France grâce à elle, un peu pour elle. Hein. Donc, du coup, la quitter s'impliquait beaucoup.
Parce que
d'un coup, j'étais confronté à une question, pourquoi je suis en France?
Ouais.
Est-ce que je rentre aux États-Unis?
Ouais.
Du coup, je suis venu pour une Française, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que j'ai quelque chose ici à faire ici, en France, en dehors de cette femme? Et il s'avère que oui.
Et il y a eu combien de temps entre cette femme et l'actuelle?
Un peu moins d'un an.
Un peu moins d'un an.
Ouais,
donc, tu as quand même une globale good experience of French woman, quand même. Parce
qu'il y a eu un an. Ça va, oui.
Et attends, quand tu es arrivée à Toulouse, avec cette femme, tu avais quel âge?
Ah, 24 ans.
24 ans.
Oui.
Donc, ça se trouve, en fait, tu connais mieux les Françaises que les Américaines de ta vie d'homme adulte.
Oui, je dirais que c'est moitié-moitié.
Moitié-moitié.
Parce que je suis allé quand même à la fac aux États-Unis.
Ouais,
et voilà.
Quand même.
J'ai envie de dire voilà après cette phrase parce que ça implique que ça
c'est les trois petits points.
Ouais.
Toi, tu es né à New York?
À New York, dans la banlieue de New York, le banlieue nord. Et quand on dit banlieue, ça veut dire suburbs,
ouais.
Qui n'a pas la même connotation que banlieue en France.
Oui, banlieue chic.
Oui, banlieue chic, ouais, peut-être.
Ouais.
Et donc, oui, c'était le Yvelines de. de New York, en gros. Et donc, ça s'appelle Westchester, c'est le comté de Westchester. Mm-hmm. Et donc, c'est à une demi-heure de Manhattan. Et donc, c'est très Desperate Housewives, Truman Show, très...
Petite maison
avec white picket fence, tu vois, ce genre de choses. Et l'avantage, c'est qu'on avait New York à pas loin. Donc, chaque week-end, on allait à New York. Bon, en tant qu'adolescent, c'était plutôt pour sortir. Mais quand j'étais petit, mon père m'emmenait régulièrement au musée, à des concerts. Central Park. Tout ce que tu veux à New York. Donc, j'ai grandi vraiment avec la culture new-yorkaise.
Et tes parents, ils font quoi comme métier?
Ma mère est prof, professeur, et mon père travaillait dans l'importation et exportation d'aluminium.
Ok.
Ouais, donc businessman, quoi.
Businessman.
Ouais.
Et toi, t'as un peu à l'idée de, finalement, t'as fait un business du fait de potentiellement enseigner aux gens des choses sur la langue, quoi.
C'est bien tiré par les cheveux. Oui, on peut dire ça comme ça.
C'est bien, t'as fait fructifier, t'as pas fait contre.
Non. Ouais. Ah, non, bon, je suis dans un milieu artistique et aucun de mes parents sont là-dedans.
Ouais.
Même si ils apprécient beaucoup, tous les deux, les arts.
Ouais.
Donc, j'ai l'impression que j'ai quand même réalisé un petit rêve de mon père, malgré tout.
Ouais.
Ah, c'est quelqu'un qui adore l'humour.
Ah,
et
ouais.
Donc, je pense qu'il est content que moi, je
fais
ma vie professionnelle grâce à ça.
Oh, c'est trop bien.
Et je le sens parce que quand il vient à Paris pour... me rendre visite, il vient à tous mes spectacles, il est premier, non c'est mon premier fan, à un point où c'est gênant quoi.
Oh, c'est vois, trop mignon.
Et des fois il comprend même pas le van parce que c'est en français.
Ouais, il rit quand même. Ah, c'est adorable,
ouais.
C'est plus souvent les mères qui sont comme ça, non?
C'était comme ça quand j'étais petit, j'avais l'impression que ma mère était plus fan de moi, mais il y avait quelque chose qui a basculé depuis 10 ans, et je pense que c'est peut-être parce que j'ai commencé à faire la
comédie.
L'humour vraiment professionnellement. Et donc, du coup, je pense qu'il y a une fierté. Et il est venu, je me souviens qu'il est venu, j'étais chroniqueur sur RTL, par exemple. J'étais sur la mission de Stéphane Bern.
Mm-hmm.
Il y avait des actrices de la nouvelle vague de fois. Et donc, une fois, c'était, je ne me souviens même pas le nom de l'actrice, mais c'était une des actrices de la nouvelle vague, parce qu'il a grandi en Argentine, mon père. Et donc, en Argentine, il regardait beaucoup de films français. Et donc, il a grandi avec les films de la nouvelle vague. Et donc, d'un coup, il était face à cette femme avec auquel il rêvait quand il était ado. Et d'un coup, son fils faisait une chronique sur elle. Et donc, pour lui, c'était waouh.
C'est deux fantasmes. C'est le fantasme artistique plus le fantasme français, en fait.
Oui.
Plus que la nouvelle vague, des actrices françaises.
Et je pense à un fantasme... littéral, dans le sens que c'était son fantasme sexuel quand il était ado, quoi. Il a grand écran. C'était pas Jeanne Moreau, mais c'était de ce genre, quoi. Bernadette Bonfons. Non,
Bernadette Lafont.
Lafont, voilà. C'est elle. Donc,
Très sexy à l'époque.
À l'époque, on va préciser. Ouais. À l'époque.
Elle est morte, d'ailleurs, je crois, Bernadette.
Elle est morte il y a quelques années, je crois, 2-3 ans. Ouais.
Moi, j'avais fait un tournage avec elle il y a bien longtemps. Oui. J'avais un tout petit rôle. Ça s'appelait l'internat, je sais pas, j'avais 18 ans.
Oui.
J'allais faire une nana et elle faisait l'une des profs, elle était loin et je la regardais et elle était toujours souriante.
Et c'était dans un film,
C'était dans une série télé.
Ah ok.
Un truc vraiment pas terrible, vraiment, mais elle était là et tu sais parfois les acteurs plus connus qui ont plus de valeur que le projet auquel ils participent, ils tirent vraiment la gueule.
Oui.
C'était un acteur plus coté qui accepte de faire ça pour cachetonner, il est dans un coin, il fume, merde, il se sent souillé de devoir faire ça.
Oui.
Mais elle, c'était pas du tout son état d'esprit, il me semble. Enfin, elle souriait, elle avait l'air chill, quoi.
Oui.
Ouais. C'est trop bien. Et donc, aujourd'hui, tes deux parents sont fiers de toi.
Oui, au moins, c'est ce qu'ils me disent, si c'est vrai ou pas.
C'est que moi, là, j'ai mon père qui vient voir mon nouveau spectacle samedi soir prochain.
Pour la première fois.
Il a vu le premier, et je sais pas pourquoi, le premier, j'avais pas trop de complexe, mais parce qu'il l'avait vu à Avignon, et parce que, je sais pas, je sais pas pourquoi je m'en foutais. Là, il revient, et tout d'un coup, je suis quand même stressée.
Oui. C'est stressant, je déteste jouer devant mes parents. Même si mon père est fan, je déteste.
Ouais.
Chaque fois, il vient justement et je dis, tu n'as pas besoin de venir à chaque fois. Mais il dit, non, j'ai envie. Je dis, ça m'embête parce que j'ai envie de parler avec deux. Tu vois, j'ai envie de me râler sur mes parents
et
tout ça.
Ouais.
Mais,
Et moi, ma mère, ça va parce qu'elle est, pour le coup, hyper cool. Elle a beaucoup d'humour. Et tu vois, même en ce moment, j'ai rodé une blague, la blague un petit peu dégueulasse que j'ai fait à ta première partie
ouais.
et sur ton plateau. En fait, au départ, je l'ai trouvée en français. Au départ, part, ma blague, c'était... voilà, je suis pas seule, je suis pas célibataire. Je suis en couple libre, avec ma mère et mon chat. Et donc, au départ, ça s'arrêtait là. Puis ensuite, tu vois, je me suis dit, ah, faut que... il manque quand même une punch. Donc, tu tires le truc un peu plus loin. Puis, on va avoir un enfant, tous les trois. Et ensuite, je l'appellerai Max. Je l'allaiterai jusqu'à ce qu'il ait 10 ans. Dans un sein, j'aurai mon fils, Maxou, et de l'autre, mon chat, Minou. Et ensuite, je me suis dit, ouais, mais ça va pas encore assez loin pour être une vraie blague. Et en bas, ma mère.
Ouais, ouais.
Et alors, ça y est, bon, là, je pense que la blague, je l'ai en entier. Mais...
mais tu dois avoir des réactions mixtes.
Ouais, un peu choquée, ouais. Un peu choquée. Moi, ça me fait. Au moment où je le dis, j'ai envie de rire.
Oui.
Donc, je me dis, c'est que c'est, bon, que c'est
ça,
encore
ça
du sens.
Fait, ça me fait rire, ouais, mais ouais. De fois, les choses dans nos têtes, surtout en tant qu'humoriste, j'ai l'impression qu'on aime les choses un peu crues, un peu vulgaires, qui poussent les limites. Ouais. Parce que le public, ils sont pas forcément prêts à nous suivre à chaque fois.
Ouais, et pourtant, moi, cette blague, en fait, évidemment que t'as plein de relations où les gens ont des relations pas, enfin, fusionnelles avec leurs parents.
Ouais.
Et je me dis, en fait, la blague, il faut que je la pousse encore plus loin. Il faut que vraiment que je décrive le couple que je forme avec ma mère.
Oui,
quoi.
Je pense que c'est ça. La blague, comme c'est maintenant, on capte pas forcément la psychologie derrière. Je pense que si tu l'expliques plus, on va le voir... On va voir cette blague plus comme un truc psychologique qu'un truc
juste pour choquer. Ouais. Il y a juste l'idée encore maintenant. Ouais. Là, pour le moment, j'enchaîne en parlant des applications de rencontres. Mais j'ai envie de plus écrire sur... Si, je vous assure, c'est la réalité. Voilà, pour vous décrire voilà, le couple que je forme avec ma mère. Peut-être un truc comme ça.
Oui.
Mais en tout cas, je lui ai dit cette blague, elle n'était pas choquée.
Ah oui?
Ouais, non. Non.
Ah oui, non,
elle
non,
est vraiment
donc
très...
Ça va avec ta mère, là.
Ouais, non, ma mère...
Je n'oserais pas dire ça.
Ah ouais, non, ma mère, elle... Enfin, elle était un petit peu de là, oh, mais vraiment pas, quoi. Ah ouais, non. Alors que mon père, c'est l'extrême inverse. Alors lui, mon père, non seulement ça le fait pas rire, mais il est contre.
Mais c'est aussi, je pense que c'est ton père.
Ouais.
Parce que là, c'est ma mère. Tu vois, je pense qu'il y a un truc avec le sexe opposé qui joue dedans. C'est-à-dire qu'il ne te voit pas pareil que si tu étais son fils.
Ouais. Non, mais c'est un problème plus large que j'ai avec mon père. Mon père n'est pas fier de moi.
Ah oui.
Enfin, il dit qu'il l'aime et je sais qu'il ment. Ouais.
T'as des frères et sœurs?
J'ai une petite sœur.
Ouais. Et t'as l'impression qu'il est fier d'elle?
En fait, j'ai l'impression qu'avec elle, il n'a pas mis le rapport de cette façon. J'ai l'impression qu'avec elle, il a eu un rapport de « il l'aimera de toute façon parce que c'est sa fille ». Ouais. Et moi, il a eu un rapport de « je l'aimerais si elle devient prix Nobel ».
D'accord, ok.
Et donc, résultat, quoi que je fasse, c'est toujours pas...
Assez.
Non, ouais. Mais donc, résultat, quand je rencontre des gens comme toi qui ont deux parents, je me dis « waouh, ta vie, Sébastien Marx, doit être cool ». Toi, c'est quoi tes ambitions pour tes enfants?
Mais juste pour finir avec ça, ma vie n'est pas comblée.
Mm.
C'est pas parce que eux, ils sont fiers que moi, je me sens ah oui, ça y est, ma vie est faite.
C'est vrai.
Non, parce que moi, mes ambitions sont plus larges que juste l'approbation ou de la fierté de mes parents. J'ai envie d'être fier de moi-même. Je me rends compte de plus en plus, c'est ça le plus important, c'est d'être fier de soi-même. Des fois, je suis, des fois. Pas du tout. Et, ça passe par des phases. Et j'ai l'impression que, en parlant avec plein d'humoristes, j'ai l'impression que c'est un peu une réalité. C'est-à-dire qu'on passe par des phases où on est fier de ce qu'on raconte, on est fier de nous-mêmes. Et après, on passe par une phase où on dit « Oh, mais je suis une merde.
»
Et
c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est cyclique. T'as raison. C'est vrai.
Tu voulais me poser
une question. Non. Mais ça m'intéresse. Donc, parce qu'en plus, l'ambition, je ne sais pas si t'as remarqué, mais c'est un petit peu tabou en France quand même d'en parler.
Oui.
Alors, par rapport à...
Le States, c'est que ça aussi.
Alors que le States, au contraire, c'est plutôt bien vu d'en avoir.
Et ils n'ont pas beaucoup de gêne de parler d'argent et l'envie d'argent.
Ouais.
Donc, c'est bien d'avoir envie de la richesse. Ce n'est pas quelque chose forcément tabou. Il y a même des livres écrits comme quoi il faut se réveiller et gagner de l'argent. L'argent t'attend. Ce genre de choses. Tandis qu'en France, c'est mal vu.
Ouais. Non, en France, c'est l'art de vivre, quoi. C'est pouvoir...
Les Français préfèrent toujours avoir du temps. Et il y avait même une étude qui a été faite sur le français. Et présenté avec le choix d'avoir plus d'argent et moins de vacances. Ouais. Plus de vacances et moins d'argent, les Français choisissent plus de vacances.
Bah oui, oui, oui.
Tandis que les Américains, c'est le contraire.
Ouais.
Donc voilà, le résultat, 5 semaines de congés payés en France,
ouais,
et contre 2 aux États-Unis, tu vois. Donc,
ouais. Enfin, jusqu'à quand, je sais pas. Mais ouais, non, c'est vrai, c'est sûr que le temps... moi, je préfère avoir du temps pour écrire et pour me sentir libre que gagner un max de blé. En fait, même ouais, parfois, je refuse du boulot. Si ça me rapporte juste de l'argent et que je n'ai pas besoin de cet argent en plus, ouais, je préfère avoir le temps.
Oui. T'es bien française.
Ah ouais, là-dessus, ouais. Mais par contre, américaine, sur le côté... Non, je trouve que c'est très positif. L'ambition, je trouve ça oui, super, l'envie de se dépasser. Même si je trouve ça compliqué... parce que l'ambition, c'est quand même... Tu as quelques moments de satisfaction où tu te sens au bon endroit.
Oui.
Puis rapidement, tu redescends et tu n'es jamais...
C'est très éphémère.
C'est jamais assez, quoi. Ouais.
Ouais. Non, cette sensation d'être comblé complètement, ouais, dure très peu de temps chez moi.
Ouais.
Et, mais je suis pas... J'aimerais que ça dure un peu plus longtemps,
ouais,
mais je sais que... Quelque part, c'est un moteur aussi pour moi, parce que ça ne dure pas très longtemps. Parce que
ouais,
si ça durait 6 mois,
ouais,
du coup, je ne bosserais pas.
Ouais.
Malheureusement, j'ai besoin de me sentir comme une merde pour commencer à bosser, malheureusement. Et du coup, parce que j'ai besoin de ça, je m'en veux d'avoir besoin de ça. Et donc, ça n'aide pas.
Ah, it's so refreshing.
Ouais.
C'est agréable d'entendre quelqu'un parler de ses angoisses. Et
quand tu parles à un juif.
Donc, ouais, voilà, c'est ce que je... C'est sûr. Juif new-yorkais.
Oui.
C'est bien parce que c'est vraiment la culture... L'angoisse fait partie d'un process...
Ouais, je sais pas si on a plus, mais on est plus prêt à...
En parler.
En parler, j'ai l'impression.
Ouais.
Parce que tout le monde en parle.
Ouais.
En fait, j'ai grandi dans vraiment la culture juive new-yorkaise. C'est-à-dire dans cette banlieue.
Ouais.
J'étais entouré par des juifs ashkenazes.
C'était
vraiment... J'ai même une blague là-dessus. J'ai dit en anglais, j'ai dit I grew up in a Jewish part of New York called the suburbs. Et c'est vraiment là, il y avait énormément de juifs autour de moi. Et donc, ça faisait partie de la culture.
Ouais.
La moitié voyait un psy, c'était
pas
tabou.
Bien sûr, la moitié, pas 100%.
Bon, on était enfants aussi.
Ouais.
Donc,
ah, mais moi j'ai vu un psy enfant.
Hein. Dès le début.
Ah ouais, dès le début, ouais, à 8 ans, mes parents, enfin, tu vois, en bonne ashkénaze, quoi,
ouais, ouais,
tu vois.
Non, je voyais aussi quand j'étais
ouais,
petit, pas tout mon enfance, mais pendant une petite période,
ouais, ouais,
bien sûr.
Et pourquoi, c'était quoi la raison pour laquelle tes parents...
Je me souviens même pas la raison principale. En fait, mon frère est allé, et je sais pas si mes parents voulaient être égalitaires avec les deux, on les voit, si ton frère va voir aussi, il faut que t'es... Je pense que c'était parce que je me réveillais la nuit... angoissé.
Uh-huh,
et donc, ouais, je sais pas si c'était vraiment une terreur nocturne qui est très dur à prononcer, pure, ou c'était juste j'avais quelque chose en moi qui me réveillait régulièrement la nuit. Et après, je sais pas si c'était ça, je me souviens même pas jusqu'à quel âge j'avais ça.
Ouais.
Mais donc ça m'a aidé, mais pas plus que ça, j'ai l'impression.
Moi, ce que je trouve cool dans cette éducation ashkénaze, c'est le fait d'accueillir l'angoisse, et que l'angoisse soit constituante de l'existence et qu'elle sera toujours là, et que voir un psy, c'est pas genre mettre fin à l'angoisse, mais apprendre à mieux vivre avec son angoisse.
Ouais.
Moi, ce que j'aurais critiquerais de mon éducation du côté de mon père, c'était vraiment ce côté polac de la plainte, aïe aïe aïe, quand même très plaintif,
oui,
que je trouve un peu très déprimé quand même, tu vois, très aïe aïe aïe. Mon père, il chialait beaucoup, quoi. Et il continue de pleurer. Et en fait, il pleure.
Mais sur de petites choses, sur des choses importantes.
Il pleure tout le temps. Mais il pleure quand il me voit. Je sais pas, tout est lourd, quoi. Tu vois, tout est lourd, tu vois. Déjà, pendant longtemps, en fait, moi, j'ai pas connu ses parents. Les parents
ouais,
de mon père sont
ouais,
morts avant ma naissance. Dans des circonstances assez tragiques. Son
oui,
père s'est suicidé.
Oui.
Et sa mère était morte 2 ans avant. Et donc, en fait... Quand j'étais petite, il me parlait beaucoup d'eux, etc.
Oui.
Les lèvres, ok. Mais bon, pendant longtemps, il pleurait à chaque fois. On regardait le Roi Lion le dimanche. Et puis,
il pleurait
quand Mufasa, le père de Simba, meurt, tu vois.
Donc, littéralement,
il pleurait. Puis il pleurait, puis il me regardait en pleurant pour que j'embrasse sa peine et que je la partage avec lui.
Ah,
parce
oui,
que ma petite sœur n'avait pas du tout, tu vois. Là, elle a une enfance, une adolescence totalement normale.
Oui.
Et moi, j'étais la conscience de ce que je devais porter du chagrin de mon père, tu
oui,
vois. Et...
Mais peut-être qu'il te regardait justement comme l'aîné.
Ouais, ouais.
Plus responsable et plus capable de l'aider.
Prends ça dans ta gueule, Mais mes résultats... Et jusqu'à ce qu'à un moment, et je pense que c'était il y a quoi, il y a quelques années, mais vraiment il n'y a pas longtemps, quoi. C'est peut-être au bout de 25 ans que j'ai fait « stop ». J'ai pu reparler de son père ou de sa mère en pleurant, j'ai fait « stop ». Et en fait, j'ai vu que c'était presque un peu... qu'il pouvait ne pas pleurer, en fait. Il pleure pas avec tout le monde.
Ouais.
C'est parce que moi, je lui laissais une porte ouverte où j'acceptais qu'il pleure en face de moi.
Tu vois. Mais c'est bien parce que finalement, tu as eu la conscience à 25 ans, parce que tu es devenu adulte, et dire « ok, je peux mettre des limites et ce n'est pas normal
».
Mais des fois, ça prend longtemps.
Ouais.
Moi, ça m'a pris longtemps aussi de dire des choses à mes parents. Ouais. Notamment que, par exemple, ma mère se plaint toujours de mon père, vraiment beaucoup. Ils chamaillent souvent entre eux. Et la différence entre eux deux, c'est que ma mère, à moi, mon frère, pouvait dire du mal de mon père. C'est-à-dire, elle pouvait vraiment se plaindre de lui devant nous, et comme si elle voulait gagner notre approbation de son côté. Et après un moment, j'ai dit « stop, c'est mon père, en fait ». Tu vois, donc ce que tu es en train de dire, je comprends, mais tu dis du mal de mon père. Et donc là, j'ai vu, c'était waouh, elle n'était pas prête à ce genre de commentaires. Et j'ai senti, j'étais fier de moi-même. Je pense qu'il est sorti de moi naturellement. Et parce que j'en avais marre d'entendre ma mère se plaindre de mon père.
Alors qu'ils sont encore ensemble.
Et ils sont encore. Et dans le monde de couples mariés, ils ont bien réussi leur mariage. Ouais. Ça fait quoi, 45 ans qu'ils sont ensemble.
Tu te rends compte?
Donc, dans notre monde, c'est une grande réussite. Même s'ils chamaillent, même s'il y a des complications, ils sont ensemble. Et ils voyagent toujours ensemble.
C'est logique en même temps. Moi, je ne pense pas qu'on soit capable d'aimer plus d'une personne à la fois, à vrai dire.
Tu ne penses pas que c'est possible?
Je ne crois pas. Moi, je suis pire que monogame. C'est que je pense qu'en fait... Donc, c'est sûr que les enfants...
Tu voulais à vie, comme des oiseaux.
À vie. Évidemment que l'amour des enfants vient forcément contrarier l'amour du couple.
Oui.
Moi, j'ai bien vu d'ailleurs que...
C'est un autre type d'amour quand même.
Tant mieux. C'est que toi, t'es sain avec... Moi, clairement, je pense que mon père avait aussi des rapports compliqués avec moi. Parce que quand je suis née et que ma mère a commencé à me kiffer...
Oui.
Et à se dire genre, waouh, genre, cette meuf me plaît.
Oui.
Genre, elle était moins attirée par mon père.
Oui.
Parce que je la faisais marrer, que je disais des trucs intéressants, que je faisais mon intéressante. Et que là, genre, waouh, c'est qui cette meuf?
Oui.
Et donc, en fait, elle était en train de tomber amoureuse de sa fille, quoi. Et de parler, tu vois. Et donc, résultat, mon père était un peu en compète avec moi pour récupérer l'amour de ma mère que je lui avais volé, quoi.
Oui.
Toi, comment vous équilibrez ça avec ta femme?
Et je pense parce que ma femme et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment plus le moteur de ma femme. On met la priorité sur nous. C'est-à-dire le couple. C'est-à-dire qu'on n'aimerait pas, et moi, je n'aimerais pas reproduire ce que ma mère a fait justement avec mon père.
Ouais.
J'aimerais pas. On fait gaffe de ne pas dire du mal de l'autre devant les enfants. Comme si c'était une évidence, mais ce n'est pas évident. Parce que des fois, on a envie de craquer.
Bien sûr, t'as envie de dire, ah oui, ta mère t'a dit ça. Bien sûr,
évidemment. Ou par exemple, là, je suis... pas très souvent à la maison parce que je suis en tournée et je sens l'envie de ma femme
de bitcher. Eh ben, papa, il est pas là. C'est maman qui se tape tout le travail.
Voilà, ce genre de choses. Et je pense qu'elle arrive à ne pas faire ça trop.
J'avoue la tentation.
Et donc, j'ai l'impression qu'on résiste la plupart du temps. Et donc, ça c'est, je trouve, très important de un peu garder nos problèmes et nos petites... Rancune.
Et t'as l'impression qu'elle t'aime toujours autant depuis l'arrivée des enfants?
Non, je pense qu'il y a... mais je pense qu'il y a du concurrence. Forcément, mais non, c'est normal.
Ouais.
Maintenant, c'est pour elle ou pour moi. On a trois petites êtres humains qui sont mignons, charmants et qui ne demandent pas la même chose. C'est-à-dire que je vois... on a un bébé qui a 9 mois maintenant. Ouais. Ce bébé regarde sa mère... comme si c'était Dieu.
Oui.
Et donc, moi, je ne regarde pas. Des fois, oui, ça m'arrive, mais je veux dire que je ne suis pas en permanent. Waouh, regarde cette femme. Et donc, comment je peux faire concurrence à ça, quoi, ouais. Tu vois. Et en plus, il ne demande pas du sexe, ce non. petit, tu vois. Donc, ouais. Moi, je suis là.
Enfin,
et...
un petit peu le sein, quand même.
Oui, ouais, ouais, mais...
C'est un peu libidineux, quand même.
Oui, mais ce n'est pas exactement
non,
pareil.
Non, ce n'est pas exactement pareil.
mais oui, il y a un truc physique, en plus.
Ouais. Donc, ouais. Du coup, oui, il y a un contact physique.
Il y a un contact ouais. physique. Donc, forcément, il y a grave la concurrence, maintenant. Donc, il faut que j'assure.
Bah, c'est clair.
Donc...
Parce qu'en fait, l'amour, c'est quand même ça, c'est quand même... Enfin, l'amour, c'est comment tu veux être vu, quoi, oui. aussi, beaucoup. Toi, est-ce que tu cherches une femme qui te regarde avec admiration ?
Je pense, je voulais un aspect de ça, c'est sûr.
Ouais, ouais. ouais.
Pas que, parce que ça, c'est dangereux aussi.
Ouais, c'est dangereux. Non, mais l'admiration, c'est dur à l'épreuve du temps, quoi.
Ouais.
Ouais.
Ouais, j'ai l'impression que quand tu rencontres quelqu'un, on est tous des magiciens. On a nos tours qu'on aime montrer.
Ouais.
Mais le tour, tu vois, il y a le secret derrière. On ne sait pas comment la personne fait ce tour. Donc, ouais. dans un premier temps, tu es ébloui par ce tour. Tu vois, ah waouh, wow, elle fait ça, mais ouais. comment elle fait ? C'est ouais. magnifique. Et petit ouais. à petit, tu commences à connaître le tour.
Ouais.
Tu commences à dire, ah, elle a fait ça, juste il y avait quelque chose dans sa manche, et donc tu commences à voir le petit secret derrière,
ouais.
et donc du coup c'est difficile à toujours épater l'autre,
ouais.
et, mais c'est ça le défi, c'est ça qui est beau, je trouve que chaque année j'essaie de l'éblouir avec
wow.
quelque chose, soit avec des cadeaux, soit ouais. avec ma personne, mais ouais, c'est pas évident, des fois c'est, elle dit ouais, je connais ce tour-là.
Et là ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ?
Ça fait 10 ans.
10 ans ?
Ouais.
Et vous avez eu votre premier enfant, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble ?
2 ans et demi.
Ouais, c'est pas mal, 2 ans, ouais, c'est bien.
Ouais, ouais.
Oui, donc vous avez eu le temps d'avoir une période romantique.
Ouais. Non, mais c'est ça qui, ouais. qui que je suis content avec notre couple là-dessus, c'est que même si on peut être à fond sur nos enfants, on fait un effort toujours de garder le couple.
Ouais.
Et quand je disais que ça venait plus de ma femme, c'est parce que ses parents étaient comme ça.
Ouais.
Ses parents... étaient très... ils préservaient beaucoup leur couple.
Uh-huh.
Tandis que mes parents, ils sont toujours en couple, donc ça va, mais je trouve qu'ils faisaient 2 équipes séparées et ma mère était d'un coup plus mère que femme.
Mais c'est pas un truc de juif, ça, aussi ? Tu crois pas ?
Peut-être. Ça, j'ai du mal à savoir, mais oui, c'est possible.
Et donc, que l'amour des enfants soit un truc complètement démesuré et trop, quoi.
J'ai vraiment l'impression que ma mère a trouvé dans ses fils, en plus, elle avait 2 fils,
ouais.
Un type d'amour qu'elle recevait pas de
son
mec.
Ouais. Ouais.
Et donc, du coup, ça a dû changer leur couple, certainement.
Ouais.
Et donc, du coup, cette idée de préserver le couple vient plus de ma femme.
Ouais. Ouais.
C'est-à-dire qu'elle est plus forte avec ce genre de choses.
Mais peut-être qu'aussi, ça, ta femme, c'est bien un exemple de famille française laïque, j'imagine, d'origine catholique, plutôt.
Ouais, non, ils n'étaient pas catholiques. Ouais, sûrement, si tu traces...
Ouais.
Oui, mais elle a grandi complètement laïque. Ouais.
Parce que moi, j'avais des copines à l'école, donc justement, un peu dont les parents... partaient souvent au week-end. Moi, mes parents, on est toujours partis en vacances tous les 4.
Oui.
Ils sont jamais partis sans nous.
Oui.
Mais c'était... ouais, non, je pense que l'histoire d'amour... Après, si... Quand même, ils étaient... Comme... En fait, ils m'ont eu, ça faisait que 6 mois.
Oui.
Et ma mère est tombée enceinte de moi, ça faisait 6 mois qu'ils étaient ensemble.
Oui.
Donc quand même, quand on était enfants, ils ont quand même continué jusqu'à un certain temps leur histoire d'amour... malgré l'épreuve des enfants. Mais je ne sais pas si c'était... Je ne sais pas si c'était un couple, c'était une famille.
Mais c'est marrant que tu dis ça comme si d'avoir des enfants, c'est la fin. Mais pas du tout. Hein.
Bah, j'espère... Non, mais bien sûr, j'imagine pour les... Après, ouais, ça dépend des cas. Non, en fait, il y a plusieurs, à mon avis. Je pense que... Moi, j'imagine qu'au contraire, ça se trouve, quand tu as des enfants, y a encore plus d'amour parce que tu as créé un truc à deux.
Voilà, par exemple, je le ressens. Avec ma famille, par exemple. C'est
ouais.
quand on est plus proche. Il peut y avoir de petites choses quotidiennes, de merde, d'organisation d'une journée qui est chiant, mais l'amour profond est plus fort.
Ouais, ouais, c'est clair. Non, non, mais bien sûr, t'imagines. Puis ça doit être quand même étonnamment mignon de voir le mélange de vos 2 têtes dans des têtes nouvelles.
Mm-hmm.
C'est quand même un dessin animé, quoi, le délire. C'est vraiment... C'est trop marrant. Mais c'est... Non, est-ce que parfois... Donc ta femme, vous vivez dans la même maison, donc vous dormez tout le temps ensemble. Parce que moi, ouais. ça fait tellement longtemps là que j'ai pas été en couple. Ça veut pas dire que j'ai pas eu des histoires, mais bon, pas en couple. Et résultat, ouais. comme maintenant j'ai l'habitude d'être seule chez moi, ouais. je me dis, ça y est, j'ai mes habitudes de vieille fille.
Ouais.
Avec mon chat qui me regarde un peu comme le bébé regarde ouais, ta femme.
Enfin, ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Wow.
Non, mais résultat, j'ai mes et je sais pas comment je repartagerai mon quotidien. Ça veut dire que tu dors avec l'autre.
Mm-hmm. Si tu veux, hein. Il y a des gens qui ouais, qui dorment dans deux lits séparés, même s'ils sont en couple, même s'ils sont amoureux, ils dorment dans deux lits séparés.
Ouais.
Mais je parle de couples jeunes, modernes.
Ouais. Ouais, bien sûr. Et le matin, vous vous levez à peu près à la même heure.
On est un peu obligés.
Ah oui, les gamins.
Non, bah oui.
Ouais, mais résultat, tant mieux, ça équilibre. En fait, moi, ce que j'aimerais pas, c'est être avec un mec qui a un métier normal et qui verrait que je dors tout le temps. Il serait là, mais qu'est-ce que tu fous de ta vie ? Là, je suis une artiste, laisse-moi tranquille.
Et tu je vois, suis intermittente.
Moi, j'ai l'impression que... Ouais, mais bon, ça veut dire que toute mon énergie devrait passer à mentir pour faire croire à l'autre que je suis saine, tu vois, au départ du couple, pour être là. Oui, je me lève avec toi à 8h. Oh, regarde comme je suis normale. Oh, 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 je mange un petit déjeuner sain. Puis ensuite, dès qu'il serait parti, tu vois, ça y est, je reviendrai le log dans l'appartement et je serai là devant l'ordinateur. Et tu vois, mais il n'y a pas de... Et puis en plus, si vous dormez tous les soirs ensemble, le problème c'est quand même le sexe, non ? Il y a un moment où vous arrivez, parce que moi je me souviens, la dernière fois que j'étais en couple, en fait, mine de rien, est-ce qu'il y a un moment où j'imagine ça s'équilibre ? C'est-à-dire que tu dors ensemble, tu fais pas l'amour, mais tu dis c'est pas grave, on est fatigué. Sauf que, en fait, à chaque fois que t'es dans un lit avec quelqu'un de l'autre sexe, quand même la question se pose, quoi.
Pas quand t'es avec quelqu'un depuis 10 ans.
Ouais.
Je veux pas dire qu'il n'y a pas de choses sexuelles, mais on a l'habitude de dormir ensemble, ouais. donc ça veut pas dire que dès qu'on est dans un lit avec un membre ouais. du sexe opposé, ça veut dire qu'on est obligé de baiser.
Ouais.
Là, après 3 enfants, on sait très bien qu'on est juste crevé.
Ouais.
Mais oui, y a,
mais résultat...
la tension est toujours là, un ouais. peu minimum, mais ah ouais. Si on fait pas l'amour, c'est pas grave
c'est
non
pas
plus.
Grave hein, c'est pas grave non plus. Ah, bah non. Mais comment vous vous donnez les signes ? Parce que les gens qui sont pas en couple, ils savent que quand ils se voient, qu'ils vont aller au ciné, qu'ils vont aller dîner, qu'ils vont rentrer chez l'un ou chez l'autre.
Ouais.
A priori, sex is involved. Mais quand t'es en couple et que toi t'as envie.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mais l'autre pas, c'est quoi ? C'est-à-dire genre tu lui caresses le bras et si elle te caresse le bras en retour, sauf que si elle se retourne, il doit y avoir un langage clé.
Oui. Des fois, c'est, il y a plusieurs choses, je pense pas qu'il y a...
Ou c'est une bonne soirée, vous sortez le week-end, vous avez bu, vous dites,
ouais,
oh, voilà.
Ça peut aider.
Ouais, ça c'est...
Non, mais pas que, je sais pas, parce qu'il y a tout type de façon de faire l'amour, c'est-à-dire que
ouais.
des fois c'est romantique, des fois c'est
plus
animal, et donc ce qui est bien, c'est qu'on garde tout le type de...
Ouais.
De baise, parce
ouais.
que je pense que c'est, ça c'est important aussi, des fois
ouais.
c'est...
Ouais.
C'est quelque chose vraiment parce qu'on va sortir, ça va être une soirée romantique.
Ouais, l'anniversaire.
Voilà.
Ouais. Ouais. La baisse d'anniversaire.
La baisse d'anniversaire. Voilà. Ou la pipe d'anniversaire. non, mais donc, il y a plein de types de façons différentes. Après, il n'y a pas forcément une façon de
mais
demander
ce genre. Vous êtes globalement sur la même longueur d'onde.
Oui, non, ou des fois pas. C'est
des
fois
pas,
j'ai envie, elle n'a
elle
pas envie.
Et
des fois et... l'inverse.
Ouais.
Ouais, on va dire, oui, c'est plus l'inverse. Mais
plus souvent elle qui a plus envie ou toi qui a plus envie.
On est assez équilibré, peut-être légèrement plus moi. Mais c'est aussi la différence entre un homme et une femme. C'est-à-dire, nous, on peut aller. Tu vois, on y va. Tu
pas
vois,
tous les hommes, hein, Seb. Ah, okay. Peut-être que toi, tu es très bien constitué et en bonne forme.
Voilà, donc on va dire ça comme
ouais.
ça. Et. Non, mais je trouve qu'on a une très chouette vie sexuelle, en fait,
ah,
après
ouais.
10 ans. On est assez
régulier.
En fait, le seul problème dans tout ça, c'est nos enfants.
Hein. Ouais.
Si on n'avait pas les enfants,
on serait
encore mieux. Mais,
Et en même temps, c'est comme si les enfants, ça rajoute un côté excitant, dans le sens, c'est comme si quand vous faites l'amour, vous trompez vos enfants, vous êtes dans une relation adultère ou vous vous cachez pour faire c'est l'amour.
C'est comme si nos enfants sont les parents. Comme si on était ados, encore une fois, et les parents sont en train de regarder un film en bas, donc il faut que... Vite.
Ah, c'est marrant. Et les enfants vous ont déjà surpris en train de faire l'amour?
Oui, mais
pas... Oui, ils sont trop petits, ils n'ont pas compris.
Oui, pas dans l'acte. C'est-à-dire, on était dans le noir, dans le pénombre, donc non, ils s'en doutent rien. Peut-être ils ont entendu des choses à la limite, mais vu, non, on était
ils
assez...
sont tout petits, ils ont quel âge les trois?
Non, l'aîné, si l'aîné nous a...
Violette,
elle a 7 ans, donc si elle nous chope maintenant,
elle comprend.
Elle va comprendre, oui. Mais le deuxième qui a 4 ans, je ne sais pas. Mais là, on fait assez gaffe. Quand
ouais,
On ferme la porte à clé.
Ah, vous fermez la porte à clé?
Ah, bah oui.
Ouais.
Ouais, s'ils sont dans
mais t'as vu le film, mon dieu, est-ce que t'as vu ce film? Pardon, c'est un peu glauque, hein, mais le film de Lars von Trier avec Charlotte Gainsbourg,
ah oui,
Antichrist.
Oui, non, j'ai pas vu. Ouais.
Tu sais, cette première scène du film, c'est quoi?
Non.
Bon, pardon, hein, je vais spoiler pour les auditeurs. Tu l'as vu, Areski? C'est un couple qui fait l'amour, c'est très sensuel, très. Chez Charlotte Gainsbourg et cet acteur génial dont j'ai plus le nom. Willem Dafoe.
Ah oui.
Et ils font l'amour dans leur chambre, et sauf que, je l'ai vu il y a longtemps, hein, mais en gros, le bébé est dans l'autre pièce, et pendant qu'ils font l'amour, le bébé les appelle, ils n'entendent pas le bébé, puis le bébé arrive à grimper de son landau jusqu'à la fenêtre, il meurt.
Oh non.
Et bon. Et résultat, ensuite, tout le film, c'est ils partent à la campagne, lui et elle, lui il est psy,
oui.
et pour faire un chemin ensemble de deuil, où c'est lui qui va la psychanalyser elle.
Ah oui.
Et il y a une scène incroyable où il y a un renard qui crie chaos dans la forêt, c'est ouf. Et puis à un moment, bon, le film part clairement en cacette, ça devient un film gore à la fin. Oui.
Donc ben... c'est une comédie.
C'est une comédie, c'est très marrant. Moi, je trouve qu'il y a des scènes, pour moi, qui sont genre juste... Enfin, je trouve que c'est un excellent film, c'est brillant. Enfin, ouais. C'est que des cauchemars, quoi.
Ouais.
Le film est une succession de cauchemars.
Ouais.
Mais putain, ça me fait penser à un cauchemar que j'ai fait hier soir.
Oui.
Je stressais un peu pour aujourd'hui. Chaque soir, avant le podcast, je stresse un petit peu.
Ah oui?
Ouais, parce que c'est encore nouveau, c'est que pour moi. Et cette nuit, j'ai fait un cauchemar que... Je me réveillais et il y avait Areski et toi, et vous me disiez « Rosa, c'est fini ». Je disais « Mais attends, on n'a pas enregistré ». Et vous me disiez « Bah oui, mais tu dormais, tu avais l'air très fatiguée, donc on t'a laissé dormir ». Et qu'en fait, tu étais là « Quoi ? Bah oui, tu t'es endormie, donc on t'a laissé dormir ». J'étais genre « Ah mais non, mais il fallait me réveiller pour faire le podcast ». J'étais « Bah merde, mais alors... » Ouais, c'était ça mon cauchemar, que genre je m'endorme pendant le... mais non, mais donc, ouais.
Tu vois, regarde.
En fait, non,
on est là.
Ouais.
Ouais, il a oublié de mettre rec, mais sinon, c'est
trop bien, donc t'as une vie sexuelle épanouie. Et justement, résultat d'être aussi épanouie sexuellement et en amour, est-ce que ça fait quand même... C'est pas contradictoire avec le stand-up?
Pourquoi?
Bah, j'ai l'impression que...
Il faut être malheureux pour faire de blagues.
Un petit peu.
Oui.
En tout cas, que moi, que la pulsion d'écrire,
oui,
elle vient avec une insatisfaction ou une...
Déjà, je ne pense pas que c'est obligé.
Non, bien sûr.
Ça peut aider, mais ce n'est pas obligé. Et deuxièmement, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème. Hein.
Mm.
j'ai des problèmes dans la vie.
Oui, mais tu te rends compte que tu n'as pas de problème en amour ni de problème sexuel. Tu marches si, plutôt non, bien, tu es maintenant très reconnu dans le métier.
Ouais, merci, mais on peut être heureux en amour et se plaindre aussi.
Ouais.
Je pense à plusieurs stand-upers qui parlent de leur femme ou qui parlent du fait d'être en couple depuis longtemps.
Ouais.
Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas amoureux ou qu'ils n'ont pas de choses à raconter.
Mais quand on pense à Louis C.K., par exemple, j'ai l'impression que le moment où tout d'un coup il est devenu superstar, où tout d'un coup ses stand-up se sont mis à devenir géniaux, c'est après son divorce.
Oui, même avant, parce qu'il commençait déjà à se plaindre.
À dire que sa femme ne l'aimait pas, c'est qu'elle le détestait, qu'il trouvait toutes les occasions pour sortir de chez lui, pour se masturber dans la rue. Bon, maintenant on sait que c'était vrai.
Ouais, c'est clair.
Mais ce qui était drôle, en fait, c'était la libération quand même d'une parole. Enfin, il y en avait d'autres qui l'avaient fait, mais je sais pas pourquoi. Quand Louis C.K. l'a fait, t'as peut-être une théorie là-dessus. Qu'est-ce qui fait que pour... Enfin, moi, j'aime personne plus que Louis C.K. encore aujourd'hui en termes de stand-up.
Ouais. Il est un de mes idoles aussi, c'est sûr.
D'avoir autant souffert dans son mariage, ça lui a donné le fuel d'alimenter autant son stand-up.
Moi, ouais, je pense que sa frustration vient de quelque chose de plus profond que juste son mariage. La preuve, c'est que, je pense, après le deuxième special, déjà, il était divorcé. Il y avait plein de choses à raconter.
Ben oui, mais parce que c'était ça, c'était le...
Parce que je pense que c'est quelqu'un aussi très angoissé, qui avait de manque de confiance aussi, qui avait aussi une colère à exprimer. Et des critiques à faire sur la société en général et notre modernité et tout ça. Donc, je pense que ce truc-là, c'était plus profond que juste son mariage.
Mais tu vois, tu dis angoisse et colère. Donc, quand même, comme si c'était des moteurs.
Mais parce que je peux être heureux avec ma famille et ma femme, ça ne veut pas dire que je n'ai pas ces sentiments. Ouais. J'ai de l'angoisse, j'ai des doutes, j'ai de la colère où je pense à d'autres humoristes qui sont très heureux en couple, genre Jim Gaffigan, il est hilarant, il parle de sa femme, de ses enfants, c'est très drôle. Donc, pourtant, il est très heureux en tant que papa, il est très heureux.
Mais il continue de lui se détester, de se détester dans son corps, de se détester. T'as l'impression que, par exemple, son rapport à l'alimentation, Jim Gaffigan, c'est éternel, quoi. Ouais. Que jamais il y aura de solution à ça. Et moi, j'adore, en fait, parce que d'un spectacle à l'autre, je retrouve le personnage de Gaffigan que j'aime, auquel je me suis attachée. En fait, ça me rassure qu'il y ait des points sur lesquels il ne change pas, qu'il ne progresse pas. Ouais. Tu vois, à chaque fois que je le vois être encore aussi malheureux dans sa boulimie, je me réjouis des blagues qu'il a trouvées dessus, toujours nouvelles et toujours plus terribles, quoi.
Et je pense que chacun de nous, en tant qu'humoriste, on a nos vices. Et donc, lui, c'est la bouffe, clairement. C'est vraiment, il remplit un vide avec la nourriture, c'est sûr. Je pense qu'on peut déplacer ce truc, cette angoisse ailleurs, en dehors du couple. Mais même en tant que mec qui est dans une famille et je suis heureux, il y a beaucoup de merde. Par exemple, là, avant, on a dit, je vais faire à Montreux.
Ouais.
Et mon passage, pour la première fois, vraiment, je vais parler du fait d'être papa et j'ai du mal à gérer mes trois enfants et parler de trois personnalités. Et il y a de l'humour là-dedans. Ouais. C'est-à-dire que ma fille me pose des questions, il a honte, quoi. Je pense que Jerry Seinfeld, il est en couple depuis longtemps et il n'en parle pas beaucoup, mais c'est un autre type d'humour.
C'est vrai qu'en plus, toi, ton humour de ce que j'ai vu n'est quand même pas vraiment désespéré. Il y a beaucoup de légèreté, de finesse, il y a beaucoup de choses sur la langue. C'est assez joyful sur les... Et donc, c'est pas... Peut-être que ce qui aurait été compliqué, c'est si avant d'avoir des enfants ou avant, t'aurais eu un humour, je sais pas, hyper noir, tu vois. Je pense que c'était la question que tout le monde se posait avec Amy Schumer, tu vois. Que comment, maintenant qu'elle est mariée, parce qu'elle a un enfant, qu'est-ce qu'elle va
raconter?
Qu'est-ce qu'elle va raconter? Parce qu'elle a tellement parlé de... Pas tellement, du célibat, de la galère des rencontres et de la galère de... Elle, d'être alcoolique et de comment, qu'est-ce que... Mais en effet, j'ai vu son special où elle raconte qu'elle était... Tu sais, quand elle est encore enceinte.
Oui, mais j'ai pas vu.
Où elle monte son bide, etc. dans le spectacle, c'est assez génial. En fait, non, elle continue d'avoir quand même plein de sources d'angoisse. Et d'être en fait, elle est dans une sincérité tellement brutale que moi, je trouve dingue.
Ou Ali Wong.
Amy Schumer. Ali Wong, extraordinaire.
Ali Wong, qui est en couple. Ouais. Dès son premier special, elle est en couple. Ouais. Elle est enceinte, même.
Ouais.
Et donc, elle est heureuse en couple.
Oui, mais c'est ça, c'est complètement différent. C'est qu'elle, justement, elle s'est fait connaître en disant, en donnant sa version de l'amour et du couple, en disant, voilà, comment elle a dressé un homme et qu'elle lui a fait répondre à toutes ses exigences. Et c'est génial, c'est hyper marrant. Mais on l'a connue avec ça.
Ouais.
On l'a connue avec son mari fan, etc. Sur Instagram, on voit son mari. Alors que ce qui est drôle, cela dit, dans le couple avec Amy Schumer, c'est quand elle parle du fait que son mari est complètement autiste.
Ouais.
Je trouve ça très marrant, cela dit. Moi, je pense que c'est possiblement ce qui peut m'arriver également. Je me dis qu'un mec me supporte, il faudrait qu'il soit légèrement autiste, tu vois. Pour qu'il y ait des trucs qu'il ne comprenne pas. Tu vois, des accès de violence, il soit là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et que moi, je suis là, c'est pas grave.
Mais je pense que tu as touché à quelque chose par rapport à le stand-up et dans n'importe quel art. Une chose, c'est déjà très dur de s'établir en tant que personne qui a une personnalité.
Ouais.
Mais c'est aussi dur de briser ça.
Ouais.
Parce que Amy Schumer, comme tu as dit, elle était connue pour être la célibataire ouais. qui galère avec les hommes.
Ouais.
Et maintenant, elle était confrontée à « Ah, maintenant, je suis heureuse
ouais,
ou
ouais.
plus ou moins heureuse ouais. dans une relation. Qu'est-ce que tu vas raconter ouais, maintenant ?» ouais. Et je pense que c'est aussi dur de ouais. se renouveler et trouver la, toujours des choses à dire.
Ouais. Et là où les Américains sont très forts, c'est que quand même, je trouve que l'exigence de sincérité est plus grande. Parce que parfois, je vois les humoristes français... J'ai l'impression qu'ils mentent un peu, c'est-à-dire qu'ils deviennent successful et ils font croire qu'ils sont pauvres, ils font croire qu'ils galèrent encore. Ouais. Et t'as envie de dire, mais non, mais dis la vérité, enfin, ouais, t'es clair. Blindé.
Ouais.
Tu vois, et c'est bizarre. Alors, c'est ce qu'on disait sur l'ambition, l'argent, etc. Mais.
Mais c'est sûr que les ouais. blagues de Louis C.K. ou Chris Rock. Ou Dave Chappelle, il parle du fait d'être riche.
Ouais.
Et il ne le cache
sûr.
Pas.
Non.
Et il trouve de super blagues là-dessus.
Super blagues. Ouais. Kevin Hart, que moi j'adore, tu ouais. vois. Parce que ce que je trouve trop marrant, Kevin Hart, c'est que lui, enfin, je sais pas, il y a de l'humour dans tout ce qu'il dit. Et puis surtout, lui qui raconte le fait maintenant d'être un nouveau riche et qui compare les amis pauvres de la, où il a grandi avec le comportement de son fils qui l'imite comme étant un trou du qui parle comme ça, tu vois. C'est trop marrant.
Ouais.
Et ce qui est quand même émouvant, c'est que tu as l'impression qu'il est toujours en même tout petit en extase de devenir riche.
Oui, oui.
Ce que je pense ce qui est désagréable, et ça, je pense que c'est en France comme aux États-Unis pareil, c'est quelqu'un pour qui ça serait dû d'être riche.
Oui.
Je pense que si les gens riches, juste ont conscience d'être riches, le disent et s'étonnent et questionnent le fait d'être riche, ben, y a pas de problème. Tout
ou
le monde
être conscient de ce que ça veut dire dans notre société.
Ouais.
Je pense à une blague de Chris Rock où il dit que maintenant j'ai du fric et maintenant j'ai un manoir
ouais.
à côté de Jay-Z. Tu vois, un des meilleurs rappeurs de cette époque. Moi, je suis un des stand-upers avec le plus de succès. Et à côté de nous, c'est un dentiste blanc. Pas le meilleur dentiste du monde, mais juste un dentiste. Tu vois, donc il a utilisé
bon.
Sa richesse de montrer
ouais.
qu'un noir
ouais.
doit se battre
pour arriver,
tandis ouais. qu'un blanc, juste, il a besoin d'être un dentiste comme les autres. Et, tu vois,
connard de dentiste,
ouais.
c'est... déteste.
Et donc là, il a utilisé sa richesse pour montrer
ouais.
où c'est situé
ouais.
dans notre société. Et ça, c'était très fort.
Ouais, c'est clair. Oui, c'est comme Ellen DeGeneres quand elle fait son spectacle Relatable. En fait, elle fait tout son spectacle sur le fait de... Est-ce que vous pouvez vous identifier au problème que j'ai, mais en parlant de ça, quoi.
Oui.
Ça, je trouve ça assez cool.
Et pour revenir à ce que tu as dit, donc là, tu parlais d'amour, mais
ouais.
on peut le transposer aussi sur la richesse.
Ouais.
C'est pas parce que tu as de l'argent maintenant, c'est une carrière qui marche,
ouais.
que tu n'as pas de choses à dire
ouais.
ou tu n'as pas le droit de se plaindre, de te plaindre. Il y a toujours des choses à dire, j'ai l'impression.
Ouais.
Il faut trouver, il faut se renouveler, il faut trouver ces choses. Mais là, oui. Donc, je pense que tu dois creuser peut-être un peu plus
ouais.
et voir d'où vient cette angoisse. Par exemple, Louis n'a pas un problème d'argent, mais il arrive à parler de ses problèmes. Quoi.
Ouais. Oui.
Bon,
non,
aujourd'hui, Louis a d'autres,
ouais,
d'autres problèmes.
Il a bien d'autres problèmes dont il n'a pas trop encore envie de parler, je crois.
Un peu.
Il
commence ça. Ouais.
Mais c'est vrai que toi, en plus, tu l'as rencontré.
Oui, plusieurs fois. Même. Ouais, j'ai présenté la soirée quand il était à Paris.
Waouh. Et il était sympathique?
Il était sympa avec moi, c'est sûr.
Ouais.
Mais j'ai vu le côté angoisse, angoissé. Il était... Je voyais qu'il n'était pas non plus... Il était un peu sur la réserve.
Ouais.
Par exemple, on a fait un after...
Ouais.
Après le plateau, et il était dans son coin, un peu comme n'importe qui connaît personne, qui est timide, tu vois. Mais tu dis, mais c'est pas possible, c'est Louis C.K. Mais ben non, tu vois, il, comme tout le monde, il a des problèmes avec le monde social, et voilà. Donc c'était intéressant de voir ça.
Ouais.
Et donc, mais du coup, j'ai compris un peu mieux. J'ai dit, bah oui, c'est un humoriste. Et
ouais.
il trouve son inspiration grâce à son côté neurosé.
Ouais. Oh. Et, en fait, moi, j'ai voulu faire du stand-up avec Louis C.K., quoi, clairement. C'était
ouais.
quand j'ai découvert la série Louis.
Ouais.
Mais comme plein de gens, je pense qu'il y a eu un truc de... Ça, ouais, ça a changé ma vie. Puis ensuite, quand j'ai découvert ces specials, je me suis dit, oh mon Dieu. Toi, le stand-up, qu'est-ce qui a influencé cet amour pour le stand-up?
Ouais, j'ai regardé le stand-up très tôt parce que j'étais petit aux États-Unis. Et donc,
ouais.
je me souviens que je regardais beaucoup Comedy Central, mais ouais. Comedy Central, ça date maintenant d'il y a 25-30 ans maintenant.
Le SNL aussi.
SNL, donc aux États-Unis, on grandit avec beaucoup de stand-up et de comedy. C'est beaucoup plus, ça fait partie de notre entertainment partout aux États-Unis. Parce qu'en France, je trouve qu'il faut faire un effort de regarder l'humour. Aujourd'hui, avec YouTube, ça va mieux. Ouais. On a meilleur accès à l'humour. Mais déjà, par exemple, c'est tout con, mais tout ce qui est award show, comme le Oscars, le Emmy, c'est souvent présenté par un humoriste. Tandis qu'en France, ce n'était pas forcément le cas il y a 20 ans. Ouais. Et tandis que on savait tout de suite que l'humour, depuis longtemps, que l'humour est très important pour passer un bon moment.
Ouais.
Et donc, j'ai grandi en regardant SNL ou Comedy Central ou même Monty Python, tu vois, et aussi le stand-upper. C'est-à-dire que j'avais accès à un spectacle de Bill Cosby, je suis désolé de le dire, mais son special des années 80, je pense qu'il est sorti en 83, qui s'appelle Bill Cosby Himself. Mm-hmm. Qui est un peu son special, son heure phare.
Ouais.
Et avec ce special-là, il a eu la série juste après.
Ouais.
Parce qu'il parle de ses enfants, il parle de sa vie en couple et sa vie tout court. Et c'est très bien fait, il joue très bien. Aussi, un autre influence, c'était George Carlin, que j'ai regardé assez petit.
Ouais.
D'ailleurs, ça m'étonne que mes parents m'ont laissé regarder un peu. Mais en même temps, il rigolait à côté de moi.
Ouais.
Donc, George Carlin, qui était quelqu'un qui mettait en question beaucoup de choses de la société, beaucoup de choses sur le langage et notre hypocrisie avec le langage.
Ouais.
Tu vois, on aime dire que quelqu'un a décédé, on n'aime pas dire le mot « il est mort », donc on dit « il est décédé », décédé. Donc ce genre de hypocrisie, il est très fort pour ce genre de choses. Donc tous ces gens-là étaient une influence. Après, plus tard, c'était des gens comme Louis ou des gens comme Seinfeld aussi, Woody Allen aussi, son stand-up, je ne sais pas si tu as...
Mais je ne l'ai pas trouvé, j'ai cherché partout.
C'est qu'en audio.
Ah, audio, mais...
Audio.
Mais je n'ai pas trouvé sur Spotify, il faudrait que...
Je vais te l'envoyer.
Ah, volontiers.
Son audio, de stand-up qu'il a fait dans les années 60.
Il paraît que c'est culte.
C'est super, c'est très très drôle.
Ah, non,
bien sûr. Tu vois que plus tard, il va faire des films.
Ça va être, ouais.
Tu vois?
Ah non, moi, les premiers films de Woody Allen, pareil, c'est aussi, c'est constructif, enfin, ça... Il y a quelque chose... Mais est-ce que tu ne crois pas que aussi les Américains sont vachement plus dans l'émotion que les Français?
Non.
Non?
Dans quel sens?
Je ne sais pas si c'est lié à la sincérité ou sans fait. J'ai l'impression que parfois, dans la parole, dans la prise de parole, ce n'est pas que les Américains sont plus courageux à faire rire. C'est juste qu'il y a un petit peu moins de pudeur. Ils sont peut-être un peu moins cartésiens, un peu moins dans leur tête, dans l'analyse. Donc résultat, tu vas avoir tous ces trucs de groupe de parole, de parler du fait que t'es alcoolique ou de trouver à chaque fois, les Américains trouvent des nouvelles maladies sur lesquelles il faut se réunir pour parler, tu vois.
Ouais.
C'était love addict, tu vois, addict de l'amour. Et ben à Los Angeles, il va y avoir des groupes de gens qui pensent qu'ils sont dépendants à l'amour, qui vont se réunir. Moi, j'adorerais aller à des groupes de parole, tu vois. Mais sauf que si je dis ça à Paris, tout le monde me dit non, t'es folle, tu vois. Mais juste, t'es folle, tu vois. Alors que non, en Californie, t'es pas folle. C'est juste, faut que t'ailles t'exprimer à propos de ça, tu vois. Donc, il y a ce truc de parler et...
Je pense que ça, c'est la culture de communauté en général. Ouais. Je pense qu'on aime... parce qu'il manque ça dans notre gouvernement.
Ouais.
Du coup, on sait qu'on est un peu... c'est à nous de le faire nous-mêmes en tant que citoyens. Et donc, on se réunit pour créer des groupes et donc de soutien, parce qu'on sait que c'est pas le gouvernement qui va le faire à notre place.
Ouais, c'est intéressant.
Et je pense que c'est plus cette culture-là, plus que la culture qu'on est plus ouvert, parce que malgré tout, ces réunions sont secrètes.
Ouais.
Tu vois, c'est... Alcoholics Anonymous, c'est secret. Tu racontes pas forcément ça à tout le monde non plus, tu vois.
Non, mais par exemple, moi, je
sais... Mais ça existe, ouais.
Tu vois, même sur le mec qui faisait l'interview de l'Actor Studio.
Oui.
En fait, moi, j'ai regardé pratiquement toutes les vidéos parce que je suis comédienne à la base. Et souvent, en fait, quand je doutais, moi, ma manière de me consoler, c'était d'aller écouter les acteurs américains qui venaient dans ces interviews et qui parlaient du travail, de leur galère, qui parlaient de leur propre incertitude.
Oui.
Et j'avais l'impression qu'en fait, le seul moyen que moi, j'avais de me rassurer, c'était d'entendre les Américains parler. Et je ne voyais pas ça en France.
Mmh.
Les interviews, déjà, il y en avait moins. C'était beaucoup plus des plateaux où on va être beaucoup dans la vanne, dans la moquerie, mais pas tellement sincère.
Oui.
Et puis, ou alors, Ou alors on va mentir. Beaucoup, tellement d'acteurs français, la mode, c'est-à-dire tout m'est arrivé par hasard, j'ai pas travaillé, je voulais pas faire ça. Encore maintenant, tu vois, des acteurs disant non, moi j'aurais juste voulu tailler du bois, etc. Je déteste les spotlights, ça m'intéresse pas la fame, etc. Tellement, tellement d'hypocrisie, tellement peu de paroles par rapport au désir. Moi, notamment, un interview qui m'a marqué, c'est celui de l'actrice australienne du film de David Lynch.
Laura Dern?
Non, pas Laura Dern, qui a mis avec Nicole Kidman la blonde Naomi Watts.
Naomi Watts, ouais, ouais.
Naomi Watts.
Elle est australienne.
Elle est australienne.
Dans son interview. Mulholland Drive.
Dans Mulholland Drive. Quand elle va à The Inside the Actor Studio, ouais. Elle parle de tous les moments où elle a voulu arrêter. Et qui finalement elle restait aux États-Unis parce qu'il y avait le soutien de Nicole Kidman qui lui disait tiens bon reste encore un peu, et que c'est... jusqu'au moment où il y a Mulholland Drive qui l'a fait exploser,
oui.
Et je crois qu'à un moment, je sais plus si c'est dans sa interview, mais elle pleure, ou souvent en tout cas tu vois, ça peut arriver de voir les Américains pleurer dans des... Alors qu'en France, si tu fais une vidéo où tu pleures, enfin, ça va devenir la honte, tout le monde va se partager. Ouais. Tu passes pour l'hystérique de base.
Je pense qu'il y a une question de fierté chez les Français. Ouais. Et aussi, je pense que les Français critiquent. C'est connu. Et je pense que la pire chose en France, c'est d'avoir les gens qui se moquent de toi.
Ouais.
Et je pense que c'est quelque chose qui vient de l'enfance. J'ai l'impression qu'il y a cette... même dans la classe, il y a la prof qui parle et tu ne peux pas faire... une erreur, si tu dis une bêtise, tout le monde va rire.
Ouais.
Et même la prof peut te ridiculiser, tandis qu'aux États-Unis, ça ne se fait pas du tout, tu vois.
Ouais.
Et au contraire, il n'y a pas de questions bêtes, on dit ça souvent aux États-Unis, tu vois. Il vaut mieux poser une question bête que de ne pas poser de questions, tandis qu'en France, je n'ai pas l'impression que c'est...
Il ne faut jamais avoir l'air bête.
Ouais, ouais.
Ouais.
Et je pense que c'est cette mentalité qui fait la différence. Un peu dans le sens que du coup quelqu'un est prêt à être ridicule aux États-Unis ou pleurer ou être dans la blague. Par exemple, tu parlais de Ellen DeGeneres, il y a plein d'actrices belles de mannequins qui vont sur cette émission et font des choses ridicules.
Où
elles vont jouer un jeu où leur bouche est dégueulasse, des choses comme ça. Parce que c'est drôle.
Ouais,
et donc, il y a...
Non, mais c'est vrai. C'est vrai que... Après, en France, je me demande si ça ne vient pas aussi du XVIIe siècle, de Versailles. Justement, il y a eu un film qui a été fait ridicule sur le fait de qui est-ce qui va être banni de la cour parce que tel comportement ne rentre pas dans les codes. De toute façon, même depuis le Moyen-Âge, tu as des codes de conduite, tu as des codes de comportement, tu as des... Donc, et puis en plus, en France, tu as les rapports de classe aussi, qui sont beaucoup plus forts qu'aux États-Unis. Donc en effet, si tu parles comme ça ou si tu dis ça, correspond à ton milieu social, là où tu as grandi. Alors qu'aux États-Unis, tu as une espèce de you généralisé, où en effet, c'est plus commun, quoi. Donc en effet, c'est pas...
Bon, on n'a pas la lourdeur. De tout ce qui est monarchie derrière.
Non.
C'est un nouveau pays, malgré tout.
Ouais.
Il y a moins cette idée de classe, c'est sûr.
Ouais. Mais c'est génial. Moi, j'adore les États-Unis. Moi, tout ce que j'ai réussi à accomplir dans ma vie, ça vient un petit peu d'essayer de non, mais je te jure. D'imiter les Américains. Le premier court-métrage que j'ai réalisé, en fait, et parce que, tu vois, je voulais réaliser des films, mais en fait en France on m'a dit bah alors tente la FEMIS, c'est-à-dire que si tu veux, si t'as la velléité. Et donc moi je m'étais dit ah ouais, mais tenter le concours de la FEMIS, bon je sais pas, non. Donc je m'étais dit non, je vais pas réaliser de court métrage parce que j'ai pas fait la FEMIS, donc je suis pas légitime pour réaliser un court métrage. Et en fait j'ai fait un stage d'écriture avec des Américains et c'est vraiment eux leur façon de dire go girl et it's going to be amazing. Et tu vois, et même si après les Français sont là ouais mais c'est faux, c'est hypocrite, c'est de la merde, non, moi c'est ça qui m'a permis de le faire. C'est ce qui m'a permis de le faire, c'est le côté vas-y quoi, vas-y, fais de la merde. En fait, fais-le.
Ouais, c'est obligé de faire la merde.
Ça sera pas grave, mais fais-le quand même. Et résultat, et au final, c'était pas de la merde, mais c'est quand même grâce à ces rencontres-là et ce côté genuine mais nécessaire, quoi.
Mais je voudrais juste préciser quand même, parce que je suis américain, j'ai grandi avec cette culture-là. C'est génial, donc plein de choses, mais aussi, il y a un côté fake, c'est sûr. Et ce qui m'a fait du bien en venant en France, c'est que je trouvais qu'il y avait plus une sincérité.
Ouais.
Et cette côté très cérébral me faisait du bien, au contraire, quand je suis arrivé. Parce qu'aux États-Unis, au contraire, le risque, c'est que tout est un peu...
Fou.
Oui, juste superficiel,
ouais,
tu vois,
oui, oui.
Et tu seras, par exemple, si on parle de l'entertainment encore une fois, les gens sont invités à un late night, ils vont préparer une anecdote, ouais, je suis allé au marché et c'est m'est arrivé, ha ha ha, mais ils vont pas parler de vrais problèmes dans le monde, tandis que tu viens en France, les infos, ils parlent de vrais problèmes.
Ouais.
Et donc, les Français, malgré tout, ils se posent des questions, et ils analysent beaucoup. Donc, quelque part, pour moi, ça m'a fait du bien, au contraire, d'avoir des documentaires à la télé tout le temps, envoyé spécial qui met en question toute la société. Il y a quand même des avantages. Hein,
oui, c'est clair. Non, mais bien sûr, vive la France. Et surtout, je pense que résultat, je pense pas qu'on pourra avoir Trump en France. C'est pas pour... je pense que, pour le coup, il est vraiment trop con. Hein.
Et bien con, mais attention. Hein. Ouais. En fait, le système français politique est fait pour qu'il n'y ait pas quelqu'un extrême. Le fait qu'il y a deux tours, du coup, s'il y a quelqu'un extrémiste, droite ou gauche, forcément, deuxième tour, les gens vont voter pour l'autre.
Ouais, ouais,
tu vois
ce
que je veux dire ? Donc, ça fait en sorte qu'il ne peut pas vraiment avoir quelqu'un trop d'extrême.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ?
Tandis
qu'aux États-Unis, c'est une fois, donc tu peux faire un coup de folie et voter pour quelqu'un extrême.
Ouais. Mais non, mais ça, c'est ce qui est rassurant avec les Français. C'est, je pense, le côté, justement, intellect cartésien font que je ne pense pas qu'on aurait... Il y a un clown pareil, tu vois.
Ouais.
C'est ça. C'est vraiment,
j'espère que non.
je pense pas. Mais bon, après, il y a plein de... Ce qui est bien, c'est ce mélange des cultures. Attends, bon, c'est passé tellement vite que résultat, il faut que je te pose des petites questions de fin. Donc, la ville dans laquelle tu aimerais vivre.
San Francisco.
Ah ouais.
Ouais. Donc, c'est trop cher.
Ouais, c'est clair.
Trop cher.
Ouais. Ouais.
Non, mais c'est une ville magnifique.
Ouais.
Il y a des problèmes là-bas aussi, mais non, esthétiquement, j'adore. C'est mignon, c'est charmant, il y a de tout. Mais en même temps, je trouve que les gens, la mentalité californienne peut m'agacer aussi après un moment. En tant que New Yorkais, il y a vraiment trop un côté premier degré, un peu peace and love, trop premier degré. Et j'ai passé un été là-bas. Et ça m'a agacé. Mais la ville en elle-même est magnifique.
Ouais, c'est clair. Ouais. Les smoothies.
Les smoothies.
Ouais, incroyable. Ouais. Et d'accord.
Le Tex-Mex.
C'est quoi le Tex-Mex ?
La bouffe, le burrito, c'est tout ça.
Ouais, la nourriture mexicaine. Ouais. Les brunchs, les crêpes, les pancakes.
On peut faire juste un podcast
là-dessus.
Sur la cuisine de Bobo américain.
C'est clair, c'est trop bon. C'est trop bon. La dernière fois que tu as eu un rapport sexuel ?
Il y a 48 heures, je crois.
48 heures, waouh !
C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup ?
C'est génial, non, c'est très récent.
D'accord,
c'est la réponse la plus sincère, je crois, qu'on a eu jusqu'à présent.
Sincère ou plus récent ?
Plus sincère, je crois que jusqu'à présent, les mecs n'ont pas voulu me répondre à cette question.
Ah bon ?
Ouais.
D'accord.
C'est que ça devait être plus longtemps que ça,
Je suis le premier qui est en couple,
qui est invité chez toi ? Non, mais... Il y a d'autres en couple, mais ils étaient plus timides.
Ok.
Ils n'osaient pas dire. Ou alors, à mon avis, ça faisait plus longtemps qu'ils n'avaient pas eu de rapport.
D'accord. Ouais,
et résultat, ils n'osaient pas.
Ouais.
Ou alors, peut-être qu'il y a vraiment des pervers que j'ai invités qui étaient là-bas il y a 2 heures avec une meuf dans la rue et ça, ils n'ont pas voulu le partager avec moi.
D'accord.
La qualité que tu préfères chez les gens.
C'est cliché, mais le sens de l'humour.
Sens de l'humour.
Ouais. Par exemple, là, j'étais dans l'Apple Store tout à l'heure. Pardon, l'Apple Store, et il y avait un vendeur, et je suis allé vers lui, et j'ai dit, est-ce que vous vendez des ordinateurs ici ? Et pas de rire, complètement au premier degré, tu vois. Et là, je dis tout de suite, ouais, il va m'aider, mais c'est tout, quoi. Peut-être c'était con, peut-être c'était con.
Non, mais tu rigoles.
Mais je pensais que c'était juste un petit truc.
Ouais, de connivence.
Pour sortir de son train-train, tu vois.
C'est clair. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans ?
Physiquement, géographiquement parlant ou émotionnellement ?
Plutôt en termes de carrière.
De carrière ?
Quelle serait ton ambition ?
Toujours, j'ai la chance de faire mon rêve en ce moment. Hein. C'est-à-dire que je monte sur scène régulièrement, je raconte des blagues et donc j'ai pas... trop d'ambition d'être acteur. Déjà en France, je sais que c'est un peu foutu, c'est-à-dire qu'avec mon accent et tout ça, je suis très limité. Donc je ne suis pas là pour être acteur au cinéma. Mais donc oui, toujours sur scène. avec, mais encore plus avancé dans, dans...
Ce que tu as envie de dire.
Oui. Plus profond, plus drôle, de, d'être encore plus... de maîtriser encore, encore mieux ce, cet art qui est le stand-up. De, d'être plus sincère, ouais, plus efficace, plus drôle. Bien sûr, d'avoir encore plus de monde dans ma salle. Même, je dis ça, mais je n'ai pas forcément envie de faire de Zénith ou de Bercy ou choses comme ça parce que je trouve que c'est trop grand, du coup, pour le stand-up. Mais ne pas m'inquiéter de, du remplissage, tu vois, vraiment d'être tranquille là-dessus. Et faire des tournées, et faire des tournées encore plus grandes, c'est-à-dire retourner aux États-Unis, même si j'ai joué là-bas quand j'étais en visite en août. Mais ce n'était pas mon one-man show, tu vois, ce n'était pas le truc en entier. Et pourquoi pas, oui, écrire, j'ai deux, trois idées pour des scénarios, donc pourquoi pas arriver au bout de, d'un film, mais pas en tant qu'acteur forcément, mais plus...
À la réalisation.
Réalisation ou moins scénariste, ouais.
Ah, super. Oui. Et la façon dont tu aimerais mourir?
Ouais, je pense que c'est un peu cliché, mais je pense... au lit, quoi, tu penses de vieillesse, quoi. Je n'ai pas forcément envie
avec
de...
Avec ta femme, main dans la main,
je sais pas, avec la famille autour de moi, oui. Ma femme, oui, elle en fait partie. Mais je disais ça, je pense que c'était à Charles Nouveau. Je me suis rendu compte que je suis fatigué en permanence parce que j'ai trois enfants. Et je me suis rendu compte que je serais fatigué pendant au moins 10 ans. C'est bizarre de le dire, mais... Et j'ai l'impression que je vais mourir plutôt sûrement à cause de mes enfants qui, que quelque part, ce sont mes assassins. Et donc, ça sera à la fois beau d'être au lit avec mes enfants autour de moi, mais mes trois assassins autour de moi. Et je sais que je vais mourir. Moi, c'est comme la cigarette. Un enfant...
C'est ça le
un
film
enfant...
que tu dois écrire. Ouais, voilà. Assassiné par mes enfants.
Assassiné par mes enfants. Donc oui, c'est comme la cigarette. Tu sais, quand ils disent, si tu fumes un paquet... par jour, pendant un an, tu enlèves 3 ans de ta vie, je ne sais pas quoi. C'est pareil, mais avec les enfants, quoi. Tu vois, tu fais 3 enfants, tu vas enlever au moins 10 ans de ta vie. Et donc, mais ça sera beau au moins que je crève avec eux à côté de moi.
Bah, merci beaucoup, Sébastien Marx. C'était génial. Et ça aurait pu durer encore bien plus longtemps.
Bon, merci.
Alors, est-ce que cet épisode avec Sébastien Marx vous a plu? Vous avez vu, c'est un épisode un peu plus sérieux. Il y a des épisodes où ça blague, où ça rigole. Là, c'est vraiment très sur les sujets de la famille, du couple, des parents. Voilà, et puis bon, alors moi, je dis des trucs et puis ensuite, je me contredis à l'épisode d'après. Mais c'est intéressant. Enfin, en tout cas, moi, c'était cool de discuter avec Sébastien Marx, d'avoir aussi... sa vision des États-Unis et de pas non plus trop fantasmer. C'est vrai que c'est ce que j'aurais tendance à faire, à projeter que c'est un monde idéal, Hollywood, enfin en tout cas là-bas les humoristes américains. Et ben en tout cas voilà, j'espère que vous aussi ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast et à nous mettre un commentaire 5 étoiles, vraiment c'est top pour nous, ça nous aide bien. Et aussi à suivre évidemment Sébastien Marx sur les réseaux sociaux, moi aussi sur Instagram, n'hésitez pas. Et puis je continue à jouer mon spectacle à la Petite Loge jusqu'à fin mars. Voilà, c'est tous les samedis 20h. Et Reza sur Bière et Duc. Bon, j'imagine que ce sont les dernières minutes de cet épisode. Je parle à 2 personnes. Mais si ces 2 personnes m'écoutent, les gars, venez. Bisous.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.